Europe 1. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'un tueur en série présumé, je dis présumé parce que il n'a pas été jugé après s'être suicidé, qui s'appelle Ivan Keller, et qui avant son suicide avait revendiqué entre 100 et 150 meurtres de vieilles dames dans la région de Mulhouse dans les années 90. Et je débriefe cette histoire avec Jean-Marie Storkel, qui à l'époque était le spécialiste des affaires criminelles au journal L'Alsace et qui est l'auteur de 50 nuances de crime, un livre publié aux éditions Batzberg. Ce suicide de Keller, vous vous souvenez du moment où vous l'avez appris ?
Oui, parce que j'étais au tribunal ce jour-là. On couvrait en fait la mise en examen d'abord et ensuite la mise en détention qui devait se faire l'après-midi d'Ivan Keller. Et comme à 2h, on a appris le suicide de Keller dans les geôles du tribunal.
Il y a une faute là quand même au passage, c'est franchement basique, on enlève les chaussures et les lacets d'un type qui est en cellule.
Non, ça, en fait c'était la grosse discussion entre la police et la justice, parce que Ivan Keller venait d'être mis en examen pour cette crime par le juge Bonduel, et il devait passer en début d'après-midi devant le juge des libertés de la détention qui devait statuer sur son envoi en prison, qui était logique, qu'elle allait se faire certainement. Mais entre la mise en examen et le passage devant le JLD, il n'était plus en détention. Hein, il était pris, la garde à vue était finie et il n'était pas encore en détention. Donc c'était logique qu'on lui laisse
les chaussures
avec les lacets.
Je pense aux familles qui avaient attendu si longtemps. Pour elles, c'est terrible, quoi.
C'est absolument terrible, surtout qu'ils espéraient depuis longtemps, parce qu'il y avait eu plein d'affaires gâchées dans cette histoire au départ. Vous avez l'histoire de Niccolo qui parle au gars de la BAC 10 ans avant. Vous avez Pierrot, le frère d'Ivan, qui va aussi voir les gendarmes du Bas-Rhin en disant que Ivan a participé avec lui à plusieurs cambriolages du côté de Saverne. Et ça a été classé sans suite aussi, cette histoire.
Oui, donc il y a une accumulation de bévues, quoi.
De bévues, oui. En plus, François de Niccolo, il écrit aussi au parquet de Mulhouse en évoquant les trois mortes de Burnop.
Et il n'y a pas de suite.
Mais les familles,
elles ne savent pas encore tout ça. Ce qu'elles savent, c'est qu'il y a un type qui est là, qui probablement a tué leur maman, et il ne sera pas jugé, quoi.
Oui, c'est ça.
Elles expriment leur colère ce jour-là, vous vous souvenez ?
Non, elles n'étaient pas prévenues encore, elles n'étaient pas là encore, en fait, les familles. Les familles se sont constituées parties civiles par la suite dans le cours de l'enquête.
Oui.
Mais il y a des gens, par exemple, comme Nicolas Roquelin, qui est le petit-fils de la dernière victime de Burnout, qui a toujours pas compris toutes les lacunes de la justice. Nicolas était encore plus scandalisé parce que l'État français a été condamné à verser de l'argent à Séverine Boer, la compagne de Ivan Keller, alors qu'eux, ils n'ont rien obtenu.
Il y aurait pu avoir un procès quand même pour juger les complices de Niccolo, qui lui trouvait des adresses, son ex-Marina qui était là. Pourquoi est-ce que le juge a renoncé à ça ?
En fait, j'ai eu un accord aussi entre de Niccolo à parler. Et on dit, tu parles et tu nous aides et tu ne seras pas poursuivi. Il y a cet accord qui est un peu logique aussi dans la façon de procéder, de prononcer d'un police, en fait. Hein.
Oui, enfin, logique, Jean-Marie Storkel, quand même. La justice doit suivre son cours, on ne respecte pas. Ça se saurait, on n'est pas en Italie avec la mafia, on ne passe pas des accords avec des gens.
Oui. Ah non, je suis d'accord, mais ça fait partie des pratiques aussi de la police. Denis Colonne n'aurait jamais parlé. Si on lui avait dit, attends, tu vas te retrouver avec une mise en examen pour complicité de meurtre.
Après nous avoir balancé. Si le juge et les policiers avaient respecté le deal avec Yvan Keller, qui consistait donc à évacuer sa compagne de Mulhouse et de le placer en cellule seule, est-ce que la suite aurait été différente, à votre avis ?
Je pense, moi je suis convaincu qu'il y aurait eu un procès.
Oui. Il ne se serait pas suicidé si sa femme avait été protégée.
Oui, et puis si on lui avait promis qu'il ne serait pas embêté en prison. Parce qu'il y avait ce risque-là aussi pour Keller.
Oui. Il n'était pas gagné qu'il aille seul en cellule.
Non.
Il n'avait pas de garantie.
Le juge lui a dit que ça ne dépend pas de moi, ça dépend du directeur de la prison, vous voyez ça avec lui.
Oui, et donc les promesses n'allaient pas être tenues. Jean-Marie, on lui prête donc 23 meurtres, je dis à coup presque sûr finalement, parce que quand c'est pas confirmé par la justice, c'est pas sûr, et lui en revendiquait entre 100 et 150. C'était pour se pousser du col ?
Non. En fait, l'arrêt de non-lieu qui parle de 29 victimes en France et 2 victimes à l'étranger, c'est-à-dire une en Allemagne et une en Suisse, où on a retrouvé l'ADN de Keller la victime en Suisse.
Mais 100-150, ça tient ou c'est un délire ?
Non, je pense que c'est peut-être trop. Mais je sais que, en fait, moi j'ai des contacts encore avec des gardes criminels qui me disent, l'année dernière encore, qu'ils arrivent à 45 crimes imputables avec les méthodes d'identification, c'est-à-dire l'ADN et autres, 45 crimes imputables à Keller sûr.
Parce que c'est quelque chose qui est assez courant chez les tueurs en série. On le voit chez les tueurs en série américains, parce que quand on leur demande combien vous en avez tué, ils sortent un chiffre absolument invraisemblable et on ne peut jamais prouver. Comme si, au fond, ils étaient contents de se trouver au centre du jeu qui se faisait...
Un peu médiatique, oui.
Ouais, un peu moussé, pour tenir le rôle de roi du meurtre en série, quoi.
C'est possible qu'il ait fait que 50, mais c'est déjà pas mal. C'est quand même, ça fait 45 établis policièrement, disons, et 29 de plus 2 judiciairement. C'est quand même, ça fait quand même le plus grand criminel du siècle en France. En fait, le plus grand criminel de tous les temps en France.
Alors, qu'est-ce que les policiers, le juge, peut-être, ont pu vous raconter sur lui ? Parce que ce qui est difficile, c'est qu'il n'a été interrogé que 2 fois. Une fois par les policiers en garde à vue, une deuxième fois par le juge d'instruction, et il n'y a pas eu de procès, donc on a un peu de mal à évaluer qui il était. Qu'est-ce que vous avez réussi à obtenir, vous ?
En fait, moi, j'ai vu Keller pour la première fois après son agression d'un antiquaire à Battenheim.
D'accord, au moment de sa première affaire.
Sa première affaire, oui.
Donc vous le connaissiez ?
Oui. En 81, il avait fait cette agression de l'antiquaire et de sa femme à Battenheim, et il a commis plusieurs cambriolages.
Et vous étiez au procès ?
Oui, d'abord j'étais à la mise en examen, enfin à l'inculpation à l'époque, ça s'appelait de l'inculpation. Il était, quand il était présenté au juge d'instruction par les gendarmes, on était présents avec mon photographe, avec des collègues, et à un moment donné, il attendait devant le bureau du juge, il vient me disant, écoute, t'as pas une clope, et c'était un gars assez sympa, ça nous arrivait souvent de parler avec les gendarmes, avec les gens qui étaient présentés, les avocats, pendant qu'on attendait devant le juge d'instruction.
Il a un profil de psychopathe, on est d'accord.
Ouais, mais c'était un gars assez, il se cachait pas. C'était sympa. Et moi, j'ai des collègues qui ont. Et des avocats aussi, des amis avocats, chez qui il avait fait des travaux de jardinage. Il racontait que c'était un gars qui était très fort, était pas très grand, mais il était trapu et il avait une force phénoménale. Mmh. En même temps, moi, j'ai une anecdote qui est assez marquante. Avec sa dernière copine, elle sortait avec un autre gars.
Ah.
Et Keller est pris avec son arme de poing. Il a mis le canon de son arme de poing dans la bouche du gars et lui dit tu me files Séverine, sinon je te bute.
Un psychopathe, pour le coup, vraiment un psychopathe. C'est-à-dire, c'est utilitaire. Il a besoin d'argent, il tue. Que ça enlève la vie d'une vieille dame, il s'en fout. Ou de l'amant de sa femme.
C'était un gars, je veux ça, et il obtenait ça. Ouais. Il prenait, ouais. Il pénétrait dans un soupirail. Il faisait attention à ne pas laisser de traces. Et, en fait, lui... On l'appelait le tueur à l'oreiller parce que il laissait pas de traces et puis parce que tout le monde croyait qu'il faisait c'était pas des cambriolages, que les personnes étaient mortes de mort naturelle.
Est-ce qu'il a pas trouvé du coup la recette du crime parfait? Parce que donc étouffer une vieille dame avec un oreiller, la placer en position de sommeil, les médecins qui arrivent et qui disent elle était âgée, elle est morte d'une mort naturelle, il y a pas d'autopsie, il y a rien, c'est classé.
Il y a beaucoup de morts comme ça, en fait.
Je veux pas donner des idées à nos auditeurs.
Non, mais c'est pour lui, c'était une évidence à chaque fois.
Alors il se fait balancer par son frère. Pourquoi le frère balance?
Parce qu'il y a eu un désaccord sur des cambriolages, sur des butins.
Ah.
Ah oui. Et moi je voyais parce que moi je connaissais bien Pierrot, enfin, on le voyait régulièrement au commissariat et puis il nous parlait aussi.
Pierrot c'est le frère, hein.
C'est un des frères.
Il est bien ma boule, hein.
Il est surtout excité. Lui il s'est fait un accident de travail, hein, comme on dit.
Ah, il se l'a fait lui-même.
Dans un cambriolage, il a eu les mains brûlées par l'électricité et il n'a plus de mains en fait. Les deux mains sont.
D'accord.
C'était un accident de travail pendant un cambriolage.
Mais pas remboursé par la Sécu.
Non.
et donc lui, il a été frustré dans un partage de butin et ça lui suffit à balancer son frère.
Oui. Mais en fait, si vous voulez, dans cette famille, c'était quand même assez compliqué parce qu'il y avait des le père les amenait à la baguette, il les frappait.
Oui.
C'était une organisation très clanique.
Dans la misère.
Dans la misère aussi. À Wittenheim, il a grandi à Wittenheim et puis ils ont grandi dans la misère et puis c'était de la débrouille pour eux aussi, c'est ça.
Fallait ramener de l'argent.
Ils sont devenus cambrioleurs, agresseurs, pour amener de l'argent, pour faire vivre la famille.
C'est la plus grosse affaire de votre carrière?
Au niveau de meurtre, du nombre de victimes, oui.
Bah oui, bien sûr, oui. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour prendre sa retraite quand on a fait votre métier? C'est juste pour des conseils personnels?
Ah ben non, moi je continue à faire des bouquins. c'est des romans ou des histoires vraies.
Ouais, vous pouvez pas arrêter.
Ouais, donc il y a tout un stock d'affaires criminelles à développer.
Les flics, à l'époque, ils parlaient plus qu'aujourd'hui. C'était plus facile.
Oui, ben c'est plus facile parce que nous, on avait... En fait, on était au courant de ce qu'elle allait se faire arrêter.
Oui.
Bon, il y avait un truc, on vous raconte ça, pour l'instant, préparez-vous pour la semaine prochaine, mais n'en parlez pas.
D'accord.
C'était ça.
Et vous teniez la promesse.
Et on tenait la promesse, sinon les contacts étaient rompus, hein, si on tenait pas la promesse. Et ça fait partie, il y avait une relation de confiance,
oui,
entre la police et aussi avec des magistrats.
Procureur? Juge d'instruction.
Des procureurs ou même des juges d'instruction.
Ça a changé, ça?
Ça a bien changé, oui, parce que maintenant, c'est communiqué du procureur ou alors un point de presse à 17h.
Ouais, c'est moins personnel, mais il y a plus de journalistes sur le coup.
Oui, et il y a plus de journalistes qui tiennent, qui ont des contacts réguliers.
Ouais. C'était faire, comment on appelait ça, faire la tournée des popotes?
C'est la tournée des faits divers, oui, la tournée des popotes, oui. Ouais.
Ça consistait à appeler tous les soirs les flics, les gendarmes, le procureur.
Oui, on y allait tous les jours, en fait.
Physiquement.
On allait physiquement à la gendarmerie, on allait chez les pompiers, on allait au commissariat, on voyait la brigade criminelle, on voyait la brigade des accidents aussi, et ensuite on voyait le juge, d'abord le parquet, et souvent le parquet disait il y a ça, mais voyez avec le juge d'instruction si c'est sortable ou pas.
On buvait un coup aussi avec eux.
Des fois, à la police, oui. Il y avait un bar dans le camp à la police.
Merci Jean-Marie Storkel d'avoir évoqué tous ces souvenirs.
Merci à vous, merci Christophe.
À bientôt, Anne Séjour. Votre livre, 50 nuances de crime, préface de Thierry Moser, aux éditions du Bast Berg, B-A-S-T-B-E-R-G.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.